Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Louis Bertrand. Bonjour.
Bonjour à tous.
Louis Bertrand. Et à toutes. Bonjour. Louis Bertrand, une vieille connaissance de la radio, puisque tu en es un des fondateurs depuis plus de 10 ans maintenant. Et tu es là aussi pour nous parler d'une exposition, une aventure pour toi, qui aura lieu donc du 25 juillet au 1er août, au 10, rue Buffardel, dans la galerie au 10. Une exposition que tu as intitulée « Op Art Brut Psychédélique ». Donc là, tu vas pouvoir développer ce titre.
Alors, je vais faire un petit historique parce que ça explique un petit peu cette histoire, en tout cas le côté brut de l'op art brut psychédélique. Moi, j'ai eu une rupture dans ma vie quand j'avais un certain âge, en 1989, où j'étais analyste financier, et là, pendant un certain nombre d'années, je n'ai fait qu'errer, j'étais un SDF de luxe, j'étais un peu partout, dont pas mal de temps en Inde. Et ce qui est sorti du vide, c'était des petits dessins que je faisais sur des carnets de voyage que j'ai longtemps, ça a été plus ou moins mécanique, etc. Puis après, ça a fini par prendre forme. Et donc après, j'ai même terminé par être, comment on appelle ça, designer textile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient que ça faisait textile. Et voilà, j'ai fait des expositions dans le Diwa il y a très longtemps. Si certains s'en souviennent, j'ai fait des expositions aux Arrêts de la Vigne, au monastère de Sainte-Croix, voilà, 2 ou 3 ou 4 à Espenay. Je me demande bien si j'en ai pas fait une. Et voilà, j'avais un cabinet de dessin qui vendait mes dessins à Lyon, dans le monde entier, mes dessins motifs textiles. Là-dessus, ça marchotait tant bien que mal, donc c'est toujours la même chose, faut bien faire bouillir la marmite. Et là-dessus, j'ai eu aussi 2 enfants, 2 jumelles, et alors là, j'ai été obligé de vendre ma sueur au plus offrant pour des tarifs habituels, quoi, au SMIC. Donc j'ai fait énormément de choses et j'ai un peu abandonné le graphisme. D'ailleurs, non, j'ai pas un peu, j'ai carrément abandonné le graphisme de l'an 2000 à l'an 2020. Pendant 20 ans, j'ai pas fait de dessin. Après, j'ai fait d'autres choses, hein, saisonnier agricole, j'étais à l'hôtellerie du monastère d'Aiguebelle. Et aussi, évidemment, j'ai commencé à faire de la radio en bénévole à Radio Saint-Ferréol en 2007. Et j'ai participé à l'aventure de la création de Radio Diwa depuis ses débuts. Ça a duré jusqu'en 2016. Et après, j'ai fait d'autres trucs un petit peu à droite à gauche. J'ai travaillé à la VAD. Et puis, récemment, je m'y suis remis au dessin parce que j'avais un autre problème technique. Au bras, je ne peux plus vendre ma sueur, donc justement. Alors, cette petite introduction, c'est pour vous dire que c'est un rapport avec, en tout cas, la partie brute de Op Art Brut psychédélique. Qu'est-ce que l'art brut? Selon Jean Dubuffet, qui l'a un peu conceptualisé, qu'il a découvert dans des hôpitaux psychiatriques, c'était des dessins de fous. Il y a eu un psychiatre autrichien qui a commencé à faire des expositions de gens qui avaient des problèmes psychiatriques dans les années 20, et Jean Dubuffet a été passionné d'emblée, et en 1945, il a conceptualisé ce terme d'art brut. Alors, il y a plusieurs choses, hein, en fait, dans l'art brut, c'est... D'abord, la condition numéro 1, c'est ne pas savoir dessiner, ou en tout cas ne pas avoir fait d'études. Et ensuite, la deuxième, qui est peut-être plus difficile à atteindre, c'est être exempt de culture artistique. Parce qu'après, même si on n'a pas fait d'école, on pourrait éventuellement s'être abreuvé d'images et d'auteurs, de peintres et de graphistes, et on pourrait être contaminé. Moi, non seulement j'ai pas fait d'école d'art, et puis j'ai fait une école de commerce, donc ça n'avait rien à voir. Et en plus, quand j'ai commencé à dessiner, je n'avais aucune culture. D'ailleurs, j'en ai très peu. Hein. Là, je connais Jean Dubuffet et 2-3 autres, mais en fait, je suis vraiment parti d'une feuille vierge. Donc, je remplis cette condition d'art brut. Alors, pour la première partie, l'op art, là, ça se réfère à un autre style d'art qui est un style abstrait qui s'appelle l'optical art. Alors, je crois que la figure la plus emblématique, c'est Vasarely. Donc, l'objectif de l'optical art ou op art, c'est de leurrer l'œil avec des effets d'optique. Donc, on croit voir quelque chose, mais en fait, c'est déformé. Enfin, après, c'est justement, c'est abstrait, donc c'est pas facile à définir. Voilà, et puis bon, moi j'ai toujours été un peu, malgré mon côté uluberlu apparent, assez rigoureux, donc mes dessins sont souvent mécaniques, voire mathématiques, avec des choses qui tournent, avec des lois, des contraintes que je m'auto-imposais. Après, de temps en temps, j'ai réussi à être plus souple et plus free, mais grosso modo, on dirait que 80% de mes dessins sont quand même assez mécaniques, ou en tout cas, c'est ce qu'on appelle dans le textile les dessins au rapport. Je ne sais pas si tu connais ce que ça veut dire, au rapport. En fait, un dessin au rapport, c'est un dessin qui est répétable. On prend un carré avec un dessin, on peut le poser au-dessus et ça colle. Sur la droite, ça colle, sur la gauche, ça colle, sur le dessous, ça colle. Et donc, ça peut faire un papier peint ou sur une robe, une blouse ou sur une pantoufle, peut-être. Ça, c'est la partie... Et alors, psychédélique, enfin... Ben, ça se réfère au mouvement de contre-culture qui est né dans les années 60, souvent lié à l'usage de psychotropes, mais pas forcément, qui s'intéresse aux interactions entre les états psychiques et la créativité, enfin, ce qu'on appelle les états modifiés de conscience avec le LSD, toute l'école de Palo Alto, enfin bref, là encore, je suis presque brut parce que j'ai peu de connaissances en fait sur le psychédélisme. Même si ça m'est arrivé de tester quelques fois, très rarement, des substances dites psychotropes. Et je rajouterais enfin psychédélique, c'est parce que aussi, je ne sais pas si je suis... Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, j'aime les couleurs flashy. Donc, ce côté psychédélique aussi, c'est pour le côté audacieusement très coloré de mes arts. Ce n'est pas du tout terne, c'est gay et voilà. En gros, c'est ça le concept de hop art brut psychédélique.
Je reviens aux sources. Donc, tu disais voyager à travers le monde par tes activités et que tu te mettais en quelque sorte à griffonner des cahiers, des carnets peut-être. Mais qu'est-ce qui fait en étant quand même dans des paysages incognito ou des paysages inconnus, te retrouver quand même juste devant une feuille de papier au lieu de découvrir. Est-ce qu'il y avait une espèce de dualité sur le moment
Alors moi, je procède souvent par... par série, en fait. Quand je trouve une bonne idée, après, on suit la plot et on fait des variations. Alors, une petite précision, quand même, c'est que mes dessins, effectivement, la plupart sont des ébauches à partir de petits dessins sur des petits carnets qui font... C'est les petits carnets, le cahier petit carreau à spirale de je sais plus quoi. C'est pas du A4, c'est en dessous du A4. C'est des petits cahiers, quand même. Et après, je les scanne. Je les scanne et je les déforme, je les texturise, je les photoshopise, je les recolorise et encore une fois je fais des variations. Alors souvent quand je trouve une bonne idée, j'essaye, je pourrais changer ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a souvent des dessins qui sont un petit peu cousins. Il y a des cousinades entre mes dessins. Et puis à un moment, la série s'estompe et puis j'arrête. Pour en revenir à ta question sur la dualité, c'est intéressant parce que, j'ai pas tout précisé, mais j'ai eu un gros coup de bambou en 1989 et j'étais quand même très agité de la caboche. Je le suis encore d'ailleurs un petit peu. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place et j'ai fait beaucoup de méditation. Et la plupart de mes dessins sont inspirés par les deux techniques de méditation que j'ai principalement rencontrées et dont une que je pratique encore tous les jours. La première, c'est Vipassana. On parle de vibrations et de sensations. C'est du bouddhisme petit véhicule. Et donc, j'ai fait beaucoup de dessins à base d'interpénétration vibrationnelle. Tout est vibration, tout est... Par exemple, j'ai fait des dessins comme des gouttes qui tombent dans l'eau et on voit les vaguelettes qui s'interpénètrent, ça j'en ai fait pas mal. Et pour l'autre technique de méditation, l'autre pratique, c'est l'hindouisme Advaita, donc non dualiste, hein, pour en revenir à ta question. C'est-à-dire qu'il n'y a seulement qu'une chose et il faut essayer de trouver l'origine de tout, sachant que je suis le créateur du monde. Et alors là, c'est plutôt, j'ai fait, à la suite de ça, j'ai fait énormément de dessins centrés ou mandalas. Et pour lutter contre cette dualité. Alors, de toute façon, l'artiste ou enfin toute personne est influencée par le milieu qu'elle traverse. Et je suis sûr que j'ai été teinté, entre autres, par ces techniques de méditation, mais par les paysages, les pays que j'ai rencontrés. Parce qu'en Inde, par exemple, c'est hyper coloré. Hein, c'est beaucoup, beaucoup plus flashant. Tout est coloré en Inde. Et j'ai passé 2 ans et demi en Inde, donc c'est très, très coloré.
Il y a la fête des couleurs aussi, non ?
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Et puis par exemple, dans le Tamil Nadu, il y a les kolam, ce qu'on appelle les kolam, les kulam. C'est des très, 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 très beaux dessins, très techniques, effectués tous les jours, tous les matins par les femmes qui, sur la terre battue, plantent un damage de petits points blancs à la craie. Et après, trace des lignes entre ces points pour arriver à des motifs très très complexes. Des fois, elle rajoute des couleurs, mais ça m'a beaucoup inspiré aussi sur le côté, pas fractal, mais en tout cas géométrique. Et ce qu'elles font, les femmes du Tamil Nadu, c'est magnifique. Et pas mal d'art ethnique aussi, aborigène ou arborigène, je ne sais jamais, un peu teinté, même si je me réclame de l'art brut et il faut que je m'en méfie de me faire teinter quand même.
Tout à l'heure, tu citais cet Autrichien, Prince Horn, qui avait mis en avant justement ces dessins de fous que l'on considérait comme fous à l'époque. Je remarquais quand même que certains avaient un don et savaient dessiner, mais que la maladie leur a déstructuré et déconstruit leurs connaissances graphiques, et au point de se redéfinir graphiquement au travers de la maladie mentale. Est-ce qu'il y a cette mutation que tu peux sentir aussi dans ce travail ?
Carrément, merci pour la question, parce que moi c'était, en fait, c'est le fait de dessiner, c'était autothérapeutique. Et de même que Victor Hugo a pu dire, le fond, c'est la forme, non, la forme, c'est du fond qui remonte à la surface. Quand je fais des dessins, il y a un feedback instantané de mon état mental. Et au début, c'était extrêmement touffu, extrêmement dense, caractéristique de la densité d'idées antagonistes au centimètre cube à l'intérieur de mon crâne. Et effectivement, au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai pu quand même dédensifier le contenu de mon mental, et ça se voyait dans mes dessins parce qu'ils étaient plus amples, moins chargés, moins touffus, moins... Fallait comme s'il fallait que je mette plein de trucs dedans tout le temps. Et maintenant, tout mon défi, effectivement, c'est l'aération, essayer de trouver un peu de vide. Mais bon, je suis encore bien agité, encore avec beaucoup d'idées. Donc, toute façon, l'art, c'est comme dans médecine, dans la physique quantique, l'observateur... change la réalité de ce qu'il observe. L'artiste, de même, en dessinant, contribue à sa propre évolution par le feedback de ses dessins. C'est auto-thérapeutique et auto-instructif, quoi. Donc, oui.
L'artiste utilise une certaine rationalité dans sa représentation. Peut-être que la folie, elle, ne s'attelle pas de ces outils-là pour s'exprimer.
Oui, alors certes, mais moi j'ai fait des grandes études, hein. J'ai Bac+5, et ça m'a pas empêché de péter un boulard, et je suis parti d'une structure assez psychorigide, qui a été ébranlée à un moment, et dont il restait des reliquats assez forts, hein. J'ai une structure mentale assez droite, qui fait des fois que je suis pas très souple. Et en fait, tout mon travail était... Mais c'était bancal quand même, je veux dire, ça tenait pas le choc. C'est comme quelqu'un qui est tellement sûr de ce qu'il pense que ça en devient dangereux, hein. Et en fait, c'est mon monde forgé par des longues études avec toute la... la cosmogonie qui va avec. Bon, moi, c'était des études d'économie, donc libéralisme, la finance. Hein, j'étais financier, analyste financier dans une boîte de capital risque. Donc, toutes ces certitudes qui étaient bien carrées, qui ont été ébranlées par un choc en 89, une banqueroute, pour dire la vérité, dont j'étais associé à une banqueroute. Et après, j'étais tout le temps en porte-à-faux par rapport à cette vision du monde, et j'ai cherché à l'assouplir. Et le dessin et la méditation ont été des moyens pour arrondir les angles et pour trouver une autre façon de voir le monde. Hein, un autre monde est possible, oui, mais il faut s'y atteler, et c'est d'abord personnel. Je rajouterais que je suis éminemment gandhiste, dans le sens où la fameuse phrase de Gandhi, plutôt que de changer le monde, vaut mieux se changer soi-même. Moi, je ne suis pas du tout militant de base, il y a du boulot à l'intérieur. Le dessin, comme la méditation, sont des moyens qui me permettent de juguler mes travers et mes rigidités pour avancer. Voilà.
J'ai vu une ou quelques œuvres sur écran. Pour moi, ça amène une certaine représentation d'une carte, par exemple. On peut parler même de labyrinthe. Et puis, il y a une question. Tu disais que tu travaillais avec beaucoup de mécanismes. Les mathématiques, quelle place ont-elles justement dans ton travail ? Tu parlais de chiffres, de te donner des règles, mais quel aspect de poésie développes-tu autour de tes dessins ?
Alors, effectivement, il fut toute une époque, je ne pouvais que le constater, qu'il y avait une certaine rigidité dans mes dessins, un côté géométrique abstrait, et contre lequel je luttais, et à travers le dessin, ça m'aidait. J'avais en particulier, j'ai des séries de dessins qui sont assez hallucinants, de précision. Je passais beaucoup plus de temps sur mes dessins, il y a peut-être au début. J'ai des dessins, j'ai passé des centaines d'heures. Et par exemple, dans des interpénétrations de double bandes qui se croisaient, le croisement des deux bandes... À chaque fois qu'il y avait un croisement des deux bandes, donc il y avait deux bandes qui se croisaient, il y avait un carré, et chaque fois qu'il y avait le carré, c'était d'autres couleurs qui tournaient à chaque entrecroisement. Il ne fallait pas que je me trompe dans tout l'entrecroisement. Donc, mathématiques, je dirais oui, mais il y a toujours quand même une grande dose d'improvisation. Mais bon, j'essayais d'être... Alors, dans tous mes dessins, il y a des erreurs. Par exemple, quand je te parle des deux bandes qui s'interpénètrent à 90 degrés, il y avait normalement les interpénétrations, il y avait les quatre couleurs qui devaient changer. Il y en avait des fois, ça faisait un huitième de tour, alors que ça aurait dû faire... tu vois, c'était toujours des erreurs. Mais vas-y.
Et justement, quand il y a des erreurs, tu n'as pas recours au repentir ?
Des fois, je me sentais mal, effectivement. Je essayais d'accepter que ça ne rentre pas dans le cadre. Oui. Oui, j'ai besoin de trouver... ayant été fortement insécurisé pendant longtemps, j'ai éprouvé le besoin de retrouver un sens. Et quand je faisais une erreur dans les dessins, oui, j'étais chagriné. Et des fois, c'était irrécupérable. Je devais l'accepter tel que c'était. Et j'en suis encore là. Hein.
Nous avons des formes, on peut en retrouver des formes angulaires. Le cercle, quelle place a-t-il, lui ?
Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de mandalas avec des cercles, des courbures.
Des ondes ?
Des ondes, des vrilles. Si, le cercle, quand même, je l'utilise beaucoup. C'est plus rond, comme par définition.
Et c'est plus difficile, le cercle ?
Tu sais que je m'aide, hein. Je suis incapable. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que je suis incapable de faire un nez, hein, ou une perspective, ou 30 ans après mes premiers dessins, tu me demanderais de te tirer un portrait, je renonce tout de suite. Mais je m'aide avec un compas, ou alors, comme je suis passé à l'infographie, tu connais un peu Photoshop, vu que tu as fait mon logo récemment, il est facile de tracer un trait. Et c'est vrai que les carrés, c'est plus carré. Je fais de moins en moins de trucs vraiment carrés avec des angles. Voilà. Mais ça peut m'arriver encore. C'est des séries. Si je tombe sur un truc qui me branche, je vais répéter, mais en faisant des petites variations, ou en changeant de couleur, ou en changeant de texture, ou en changeant un petit quelque chose. Ça procède d'essais à erreurs, de tâtonnements. Et puis jusqu'à ce qu'une idée s'estompe, s'épuise en fait.
C'est parce que tu te sens mauvais ou pas du tout dessinateur que le figuratif n'a pas de place dans ton travail ?
J'ai effectivement un complexe d'infériorité quand je vois des gens qui dessinent bien, parce que... Alors, c'est bizarre, hein, au bout de 30 ans, j'aurais peut-être pu prendre des cours de dessin, hein, mais bon, j'ai toujours été très occupé par ailleurs et j'ai pas pris le temps. Il a été une époque, juste avant l'an 2000, juste avant que j'arrête, où j'étais sans doute bien dans ma peau, et que j'ai réussi à des dessins moins abstraits, plus figuratifs, avec des têtes. Ah, mais oui, je dis bien sûr, j'ai fait une exposition, voilà, c'était des ectoplasmes assaillants, où c'était des têtes. Bon, bah évidemment, j'ai fait... c'était toujours aléatoire, le nez était trop gros, un peu à la Picasso, quoi, un peu de guingois, de traviole, quoi.
Le figuratif, donc, tu l'as pratiqué, mais on peut se référer à Jean Dubuffet, que tu citais au début de l'émission, qui lui aussi avait une certaine représentation des personnages. Et je ne pense pas qu'il avait un... Il n'était pas dessinateur à l'origine, hein, je crois qu'il ne savait pas forcément dessiner aussi. Tu ne te réfères pas justement à un certain graphisme que tu pourrais découvrir dans l'histoire de l'art, et auquel tu pourrais t'inspirer pour ces personnages, parce qu'on a tous au début besoin d'un guide pour se perfectionner dans son propre art.
Certes, mais de même que quand j'ai créé Radio Diwa, un des reproches qu'on me faisait, c'était de jamais écouter la radio, Radio Diwa. De même que dans le dessin, j'étais pas extrêmement pris de curiosité pour aller voir d'autres artistes. J'ai dû, je te dis Vasarely, j'ai pu constater que j'ai pu regarder 2-3 personnes dans l'Opar, David Hockney, j'ai un peu pénétré, mais en fait, je suis quand même assez inculte en matière graphite, Vicky. Et ça se discute effectivement. Pourquoi j'ai pas pris la peine de creuser la question. Après, ce que j'ai peur, c'est effectivement, c'est la contamination, l'influence. Pour moi, c'est assez important, cette espèce de fraîcheur, de naïveté qu'on a retrouvée, par exemple, dans Les Douaniers Rousseau ou le facteur Cheval, là, qui a fait son truc. Il était aussi complètement... je sais pas si, même pas s'il était compétent en matière de maçonnerie, en fait.
Peut-être pas, mais en tout cas, ça tient toujours.
Certes. Et voilà, donc voilà. Mais en fait aussi, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que bon, depuis que j'ai eu ce grave accro en 1989, mis à part la parenthèse Radio Diwa qui a duré de 2009 à 2016, j'ai toujours été dans la précarité en train de me battre pour des queues de cerises financières. Et bon, quand on a la précarité, moi je lance un message politique, la précarité c'est pas bon pour la santé. Et on devrait absolument passer au revenu minimum universel, parce que c'est usant et ça empêche de s'élever, et c'est vraiment très mauvais. Et moi, j'ai passé mon temps en dessous du seuil de pauvreté à trouver des petits boulots à la mort-moelle. Des fois, ils étaient plus intéressants, sauf Air Diwa. Et donc, voilà, j'ai pas trop de disponibilité mentale pour me culturer.
Je reviens à ton travail face à tes représentations. Est-ce qu'on peut y deviner le temps aussi ?
Ça, j'en sais rien. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une vraie évolution entre les premiers dessins, et puis même il y a des périodes dans lesquelles qui sont bien différenciées. Maintenant, est-ce que dans mes dessins, il y a la variable temps qu'on pourrait pressentir ? J'avouerai que j'en sais rien. Je ne sais pas. J'y passe du temps.
Tout à l'heure, tu parlais de croisement de lignes. Justement, la croix a une grande place dans ton travail aussi, non ?
Alors, je suis effectivement, toujours suite à ce choc séminal, hein, je suis pas le seul à avoir eu un choc dans ma vie, hein, mais bon, celui-ci, je m'en suis encore tout à fait remis. Il a été vraiment très important, j'ai été SDF pendant 9 ans, quasi comme, Et la spiritualité a été effectivement... Alors, je n'étais pas du tout religieux de prime abord, et j'étais à la messe pendant longtemps, donc marqué par le catholicisme. Mes parents étaient très chrétiens, que j'ai rejeté assez... parce que j'aimais bien faire la fête, etc. Mais quand j'étais dans le caca, je me suis tourné vers la spiritualité. J'ai une petite phrase que j'aime bien, c'est de Sade Prem, c'est un disciple de la mère qui a fondé Auroville. C'est « L'extrémité de l'homme et l'opportunité de Dieu ». Et c'est-à-dire que quand on est vraiment au fond du puits, il peut arriver qu'on n'y arrive pas tout seul et que là, on se tourne soit vers des gens, c'est aussi possible, des thérapeutes, voire des amis, voire la famille, ou alors on peut se tourner vers des forces transcendantales qu'on appelle conscience, univers, Gaïa, Dieu, Jésus. Mais après, moi, j'ai essayé tellement de techniques. Hein, j'en ai essayé facilement plus d'une vingtaine de techniques différentes, dont des congrégations chrétiennes. J'ai travaillé dans des monastères. J'ai été souvent j'en étais souvent dans des retraites monastiques chrétiennes à Aiguebel, à Trior. À Trior, juste avant le confinement. C'est marrant parce que j'ai quasiment recommencé à dessiner juste avant le confinement. Et je me suis moi-même auto-confiné pendant 15 jours, deux fois une semaine, à l'abbaye de Trior, près de Romans. Et là, c'est là que j'ai commencé. Je me suis isolé exprès parce que j'avais du mal dans mon environnement quotidien à pouvoir tout couper et à me reconcentrer sur du dessin. Et c'est là que j'ai fait mes premiers dessins dans ce monastère, donc il y a 3 mois. Et effectivement, tu as raison de le noter. D'ailleurs, il y a un certain nombre de gens à qui ça fait grincer les dents. Il y avait des croix parce que j'ai été influencé par la croix. Alors, bon... Je ne vais pas entrer dans des spéculations religieuses. Moi, je ne pense pas grand-chose de la religion catholique, mais j'aime beaucoup Jésus comme figure tutélaire et comme inspiration. Hein, il a quand même renversé les tables des marchands dans le temple. Hein. C'est ce qu'on appellerait presque tous de nos voeux, c'est que ce monde soit moins financier quand même.
Voilà, et puis après, les marchands ont redressé les tables et remis les choses dessus.
Ah, ça n'a pas trop changé, et ils ont même pris le pouvoir après le Moyen-Âge. Ça a été eux qui ont mené la barque, quoi.
Donc là, il y a ce cheminement pour cette approche graphique, la couleur psychédélique aussi. C'est peut-être la dernière venue dans ce travail où elle était déjà d'emblée présente dès le départ.
Moi, j'aime pas la ternitude. Ce qui est terne, ça c'est un truc que j'ai appris dans je sais plus quel ashram d'Inde, mais sur le langage des couleurs des chakras. Donc, on a 7 chakras principaux, ils ont des couleurs, et quand on s'habille d'une certaine façon, on travaille sur ces chakras, et s'habiller en gris, en terne, c'est pas constructif. Enfin, c'est pas ça. Et donc, moi, je travaille avec les couleurs, et souvent, mes dessins sont des aplats. Il peut y avoir des variations, des dégradés, voire des ombres, mais il y en a énormément. C'est des couleurs pures dans le sens où c'est un rouge à côté d'un orange, à côté d'un jaune, à côté d'un bleu. Et par contre, non, ce qui est terne, ça me fait. Ça me. Non.
Je reviens un petit peu dans la notion du parcours qu'on pourrait trouver sur tes travaux. Et il y a dans ce parcours, donc on peut y trouver un cheminement. Ça me fait penser un peu au grotesque aussi que l'on trouve sur certaines demeures qui sont sur les encadrements de fenêtres et qui représentent une scène champêtre et où on peut retrouver à multiples endroits les mêmes personnages comme pour décrire une action. Est-ce que tu envisagerais peut-être d'y introduire justement l'humanité dans ces plans, dans ces cartes ?
Oui, j'aimerais bien, mais encore une fois, quand je fais des personnages, ils sont tout banco. Le nez travers, le genou n'est pas au bon endroit. Tiens, un truc très intéressant que j'ai appris. Est-ce que tu savais qu'avant l'invention de la photographie, toutes les photos, toutes les sculptures de cheval sont fausses ? Parce que pour la physiologie du cheval, il a fallu attendre la photographie pour être capable de mettre l'arrière-train au bon endroit. Sinon, il y avait toujours un décalage. Et moi, j'en suis un petit peu là, c'est que je me sens mal habile. Et si je mets des personnages, effectivement, ça deviendrait grotesque. Et le ridicule ne tue pas, mais j'aurais peur d'être ridicule.
Alors le grotesque n'est pas du tout péjoratif, hein. C'est vraiment une dénomination de ce type de représentation. Et puis, je reviens un peu sur le psychédélisme, on peut l'associer aussi avec la musique pop, dont tu as été aussi, et toujours un fervent admirateur. Est-ce que tu associes un peu cette musique avec tes créations ?
Alors effectivement, oui, j'ai écouter et donc proposer d'ailleurs à Radio Duo une émission pendant longtemps. Je suis un fan, un grand connoisseur du rock'n'roll anglo-saxon, du funk, du groove, du blues rock, du blues, du folk, de la soul. Et effectivement, ce côté, et je pense qu'il y a un côté déferlement dionysiaque dans le rock'n'roll qui m'a marqué aussi dans le côté sans concession, justement, pas avoir peur de trancher dans les choix de couleurs, entre autres. Par contre, effectivement, il y a des gens que ça étonne de me voir complètement débridé à certaines occasions et si structuré dans mes dessins. Mais les êtres humains sont complexes.
Louis Bertrand s'est muté en Louis 21. Alors Louis 21, pourquoi 21 ?
Bah, rappelle-toi, Yves, quand nous collaborions à la radio, je signais tous mes interviews du pseudonyme de Louis 21. Et il fut une époque, j'ai fait beaucoup de clowns et je comptais j'ai failli être clown professionnel pendant une époque. Je suis plutôt doué dans le clown. Et donc, il y avait un côté clownesque, mais il y avait ce clownesque politique. Le fou du roi, voire le roi. Et donc Louis 21, c'était parce que pendant une époque, je voulais être disque jockey et avoir un personnage, un habit de lumière, j'aurais eu une couronne et j'aurais été le roi. Louis 21 pour le 21e siècle. Mais c'était ce côté un peu clownesque. Et voilà, je sais plus où est-ce que je voulais en venir, mais en tout cas, oui, en tout cas, moi je suis multi-protéiforme.
Louis 21, donc un nom ou une marque ?
Non, c'est mon nom, puisque ma marque, c'est Kairos Graphics, GRFX, Kairos GRFX, j'enlève le A et le I. Et Kairos, c'est le dieu de l'instant, c'est un dieu du panthéon grec, qui est très peu connu, pourtant il est très ancien, et c'est normal, parce qu'à peine apparu, il a déjà disparu. Et j'ai créé une micro-entreprise il n'y a pas longtemps, etc.
Voilà, et puis donc on revient sur cette exposition qui aura lieu donc à partir de la fin du mois de juillet à la galerie de Odile Touillet. Qu'est-ce qu'on pourra y trouver justement en exposition et y aura-t-il aussi d'autres propositions ?
Alors, c'est une galerie d'art, donc en fait je vais exposer des tableaux que j'ai fait imprimer. Ça a été un peu laborieux parce que j'ai essayé plusieurs techniques. Il y a toujours un acronyme dans l'informatique, c'est WYSIWYG. What you see is what you get. Et c'est très difficile de passer de ce qu'on voit à l'écran à ce qu'on imprime. Et là, j'ai eu pas mal de soucis de trouver le bon support en grand. Parce que là, j'ai donc mes dessins sont petits. Et on m'a souvent dit, Louis, sois ambitieux, ose la grandeur. Donc je les ai fait imprimer, la plupart sont en 45-45, à peu près des carrés de 45, mais il y en a deux ou trois ou quatre qui sont en 90-120. Et voilà, on va trouver, j'ai fait imprimer une trentaine de tableaux. J'ai aussi effectivement ce projet, c'est bien que tu en parles, parce que bon, les tableaux, c'est peut-être un peu cher, je ne parlerai pas des prix aujourd'hui, vous verrez bien. Parce que j'ai pas encore défini la grille de tarifs, mais en tout cas, j'ai aussi imprimé des cartes postales, j'ai acheté une machine à badges, je vais faire des badges, ils sont magnifiques. Tout ça pour les petits budgets qui voudraient avoir une trace, mais qui n'ont pas le budget. Et puis, moi, j'ai fait, il y a 20 ans, j'avais déjà fait des cartes postales, et ça me permettait, je vendais pas tellement de tableaux, mais je vendais pas mal de cartes postales au marché de Noël, ce genre de trucs.
Louis, je vais te laisser bientôt. Hein. Tu veux peut-être rajouter ?
Oui, alors moi, il faut absolument que je remercie énormément de gens, parce qu'il faut savoir que ça n'aurait pas été possible si j'avais tout porté sur mes épaules. C'est juste, là, je travaille comme un fou, depuis tout, souvent, mais je suis un travailleur, mais là, depuis peut-être un mois, je suis vraiment à donf pour finaliser l'exposition. Et justement, moi, il faut que je remercie les gens. C'est, de nos jours, on parle beaucoup de changement de société, de collaboration, de coopération. Et c'est justement ça qui, que je tiens à mettre en exergue. Hein, c'est que tous ces gens autour de moi qui m'ont aidé, toi le premier, Yves, puisque bon, hein, je le redis, tu as fait mon logo Louis 21 à titre amical. Odile Touillet, qui normalement c'est la pleine saison et qui a accepté de me recevoir, donc elle se prive de vente. Ma mère pour le financement, parce que les impressions ça coûte super cher. Connie Cornaliachtal qui fait un travail extraordinaire sur les encadrements, parce que je ne l'ai pas dit, mais pour donner un peu de cachet aux œuvres d'art qui sont quand même des reproductions en nombre limité. C'est un côté un petit peu informatique. On m'a toujours dit que c'était froid, donc on fait un encadrement qu'on a inventé, qui est totalement néolutionnaire en bambou, hein, je crois que j'ai jamais vu ça. Jacques Dupont qui m'a encouragé, Léo Crémonaise, il y a plein de gens que j'espère que j'oublie personne, mais en tout cas j'aurais pas pu y arriver tout seul, et donc merci à tous ces gens. J'espère que ce sera un succès, parce que pour moi c'est extrêmement stratégique, c'est un petit peu un pari, parce que ça coûte cher tout ça. Mais vous serez tellement libre de venir voir sans que je vous alpague. Merci d'avance.
Merci Louis d'être venu. Est-ce qu'il y a une visibilité sur Internet pour connaître ce que tu produis ?
Alors pour l'instant, je n'ai qu'une modeste page Facebook. Donc j'ai ma page Facebook, je te communiquerai le lien, tu pourras le mettre dans le...
Elle s'intitule comment ?
Elle s'appelle Kéros GRFX. Donc c'est une page que j'ai créée à partir de mon compte perso. Et que je te transmettrai, tu pourras la mettre sur la page d'interview, dans laquelle il y a une 45aine de dessins, dont certains on retrouvera à l'exposition, d'autres non. Et ça, c'est en prévision, mais je ne peux pas tout faire en même temps.
Je te souhaite une bonne soirée.
Merci Yves.
Au revoir.
Smile. faux mots.